Europe 1.
Bonjour Stéphane Rosès.
Bonjour.
Merci d'être dans les studios d'Europe 1.
Merci à vous.
Politologue, essayiste, maître de conférences à Sciences Po, vous avez longtemps dirigé l'Institut de sondage CSA et longtemps exploré l'état de l'opinion de la société française. Vous aimez le foot, Stéphane Rosès.
Oui, absolument.
En France comme partout dans le monde, on pleure la mort d'une icône, un footballeur de légende, Pelé, qui a fasciné des générations. Qu'on aime le foot ou pas, en fait, c'est assez rare finalement les moments d'émotion et de communion et d'hommage mondial pour une personnalité comme Pelé.
Oui, il faut d'abord évidemment pour la personnalité une certaine ampleur, une reconnaissance pour tous, mais aussi ça signifie quelque chose au fond sur le besoin des peuples de se retrouver dans des figures qui rassemblent. Et le football, peut-être un peu moins en Asie, mais s'il est autant répandu, c'est que c'est un sport collectif où le talent individuel est au service d'un collectif. Et le collectif lui-même fonctionne s'il est indexé sur les façons d'être et de faire des peuples. On ne joue pas au football de la même façon au Brésil, en Argentine, en Europe ou à Nantes. Le jeu à la Nantaise, ce n'est pas pareil qu'à Saint-Étienne ou à Marseille.
Certes, Stéphane Rosès, mais le fait est que Pelé, le Brésilien Pelé, il était universel.
Oui, il était universel parce qu'au fond, ça a correspondu. Il a hissé l'équipe du Brésil au plan international. Et puis, il avait une façon d'être et de faire. Et puis, un talent incroyable qui faisait que le geste footballistique, dans sa grande qualité, peut être reconnu au fond par tous. Et puis, il se mettait à l'écart des discordes. Ça lui a été reproché d'ailleurs des discordes politiques. Mais au fond, le talent Pelé dans un collectif brésilien, c'était une époque. Et ses derniers mots pour Kylian Mbappé montrent à quel point, au fond, il pouvait aussi apparaître comme un passeur. Il a fait beaucoup d'innovations footballistiques et il s'est occupé des nouvelles générations.
Il a marqué donc l'imaginaire des peuples qui est au centre de votre dernier livre, Chaos, entretien avec Arnaud Benedetti.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, au fond, dans la mondialisation est une mosaïque de peuples depuis toujours. Chacun a sa façon d'être et de faire, et chaque société se pose la même question : comment face au réel on s'assemble et comment on articule la diversité, voire des contradictions sociales, avec le fait de s'assembler. La crise de la pandémie a montré que la priorité pour les sociétés, c'était même pas la prospérité économique, c'était même pas forcément même les libertés individuelles qui ont reculé, on fait face ensemble.
Oui, comment on survit,
comment on se meut ensemble, comment on fait ensemble, parce qu'on est conscient qu'on va mourir, qu'on est limité, le sujet c'est le rapport aux autres. Et la circulation du ballon, c'est le rapport aux autres.
Alors revenons dans nos problématiques un peu franco-française, si vous le permettez, Stéphane Rosès. En introduction de ce livre, donc je le disais, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, vous décrivez une France dépressive, une période incertaine et dangereuse où les politiques sont abonnés aux absents, sont aux abonnés absents. Visiblement, 2022 n'y a rien changé et vous ne voyez pas de raison pour que ça change en 2023.
Oui, nous sommes toujours les plus pessimistes au monde, alors que notre modèle social, quoique dégradé, fait toujours des envieux. Et donc, le pessimisme français a des raisons profondes. C'est que le cours des choses dans le monde, et notamment dans l'Union européenne, sont contraires avec les façons de faire des Français, qui est de construire politiquement l'avenir au travers de disputes communes. Il faut que les politiques, du coup, ça soit eux qui décident. Or, l'Union européenne, c'est l'inverse. Le sommet de l'État et les gouvernants disent aux Français, pour survivre, il faut ici et maintenant respecter des disciplines économiques. Et donc, ça met le pays dans une dépression, d'où notre affaissement. Alors, vous avez raison, 2022, c'est le prolongement en pire, avec une dégradation très forte. ça ne tient pas seulement ou essentiellement à Emmanuel Macron, mais il s'est situé, en dépit de sa première élection, au fond, dans la continuité de ses prédécesseurs.
Le chaos que vous décrivez, avec comme illustration un exemple parmi d'autres, peut-être le délitement du système de santé que l'on observe à la faveur d'une épidémie de Covid, on en a parlé, ou simplement d'une grève de médecins généralistes. Ça dit beaucoup de choses, finalement, de l'état de la société actuelle.
Mais ça dit beaucoup de choses, parce que la France dépense beaucoup au plan social, et pourtant, les services publics se délitent. Alors, pourquoi ? Parce que ceux qui ont pris des décisions depuis 30-40 ans n'ont pas vu et pas pensé ensemble les questions culturelles, politiques, les modèles sociaux, les rapports sociaux et les questions géopolitiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous avions le meilleur système de santé. Nous avions un très bon système éducatif. EDF était le leader mondial de l'électricité. Et on a mis en place des politiques de management public correspondant à des imaginaires américains, anglo-saxons, où le comment prévaut sur le pourquoi. Et donc, nos gouvernants ont mis en place des politiques qui se voulaient plus efficaces en termes de dépenses, mais tellement contraires à nos façons d'être et de faire, qu'en fait, à la fois, on a un système qui coûte cher et qui s'est complètement délité.
D'accord, Stéphane Rosès, mais ça ne s'est pas fait contre les peuples, contre les électeurs. Les électeurs ont voté pour ça.
Vous avez tout à fait raison. Il y a un paradoxe apparent chez les Français, c'est que comme nous sommes universalistes depuis des siècles, on a beaucoup d'illusions sur le fait qu'en remettant notamment aux institutions européennes vécues comme la France en grand le soin au fond de faire les grands choix, nous étions dans le progrès. Mmh. Or, les lois...
Ou l'illusion du progrès.
Voilà, l'illusion. Donc, c'est une forme d'universalisme radical qu'on trouve dès les Lumières, au travers de la figure de Condorcet, qui, contre Montesquieu, dit « La loi, elle doit être la même pour tous les peuples, nonobstant leurs us et coutumes. » Or, là, les peuples, aujourd'hui, ne veulent plus ça.
Voilà, c'est ça.
Et donc, ils
refusent la délégation.
Voilà, ils se replient. C'est la montée des nationalismes. Mais mon inquiétude, c'est l'arrivée des guerres et des conflits, parce que les sociétés se délitent de l'intérieur, mais ça, elles ne peuvent pas l'accepter. Elles préfèrent faire la guerre à l'extérieur plutôt que se déliter de l'intérieur.
Alors, pardon, sans aller jusque-là, sans aller jusqu'aux guerres et d'une certaine façon au choc des civilisations aussi, restons peut-être dans notre cadre un peu franco-français. C'est ce qui explique aussi des phénomènes comme les gilets jaunes ou alors des collectifs de grévistes qui apparaissent ici ou là selon les corporations.
Bien sûr, il y a une dislocation parce que ce qui unifie la France, qui a toujours été un archipel depuis les Celtes, les Latins, les Germains, depuis ses origines au pluriel, pour rassembler les peuples de France dont parlait Mirabeau pendant la Révolution française, il faut construire l'avenir. Il faut se projeter politiquement. Or, comme nos gouvernants font l'inverse, la France se divise, se décompose, chacun est inquiet, veut faire prévaloir ses droits. Quant aux gilets jaunes, c'est un peu différent selon moi, c'est une grande chacrie. Soutenue par les deux tiers des Français, c'est Macron nourrit ton peuple. Il a nourri la question fiscale, les fins de mois difficiles, mais il y a ton peuple, la souveraineté. Or, Macron s'était fait élire en disant « C'est pas vous, les Français, le responsable de notre malheur, c'est la classe politique et on va se mettre en marche pour reprendre la main sur notre destin. » Or, 6 mois après, 1 an après, quand Merkel lui dit qu'elle ne va pas bouger les lignes en Europe, il reprend les propos de ses prédécesseurs, d'où la grande chacrie des gilets jaunes.
D'accord. Emmanuel Macron, vous en parlez, Stéphane Rosès, il va mettre en place au début de l'année prochaine un Conseil national de la refondation. C'est un vrai outil de renaissance, ou alors vous dites ça va être un gadget de plus dans
Oui, je crois que c'est ça, c'est de la communication. Au fond, notre crise, c'est d'abord une crise de souveraineté. C'est pas une crise de représentativité, c'est une crise de représentation. Le sujet n'est pas que les gouvernants ne comprennent pas ce qui se passe, ou que telle ou telle minorité n'est pas suffisamment représentée dans les institutions. Le sujet, c'est que les décisions qui sont prises en France, dans leurs grandes lignes, ne viennent pas de la souveraineté nationale en France comme ailleurs en Europe. D'où le déclin de l'Europe, d'où le fait que les institutions européennes ne sont pas conformes au génie européen. Le génie européen, depuis Mare Nostrum, c'est de faire de la diversité du peuple du commun, et non pas de déléguer à une technostructure à Bruxelles le soin de mettre en place des politiques unique, d'où notre déclin. Donc la voie de renaissance en France et en Europe, c'est le retour du politique et de la souveraineté nationale et populaire.
Mais ça va passer forcément par un système électoral classique tel qu'on le connaît dans nos institutions. Qu'est-ce qui pourrait changer alors ?
Ce qui pourrait changer, c'est au fond la conception même de l'Union européenne, qui doit revenir au fond au génie européen. C'est-à-dire que les grandes décisions ne doivent pas être déléguées à des technostructures comme la Commission de Bruxelles, mais elles doivent être autour d'une table, comme lorsqu'il y a des grandes crises en Europe d'ailleurs, la résultante de choix politiques. Un Allemand, c'est un Allemand, c'est pas un Français en plus discipliné, on le voit maintenant avec la rupture grave du couple franco-allemand. Donc il vaut mieux laisser chaque peuple déployer son génie et ensuite mettre en œuvre des politiques européennes ambitieuses. Or là, il se passe, pourquoi ? Parce que moi j'enseigne à Sciences Po depuis 32 ans, j'ai enseigné à HEC, je vois le mental, et j'ai travaillé pour le sommet de l'État. Donc les gens qui nous dirigent pensent que l'économie fait la société. Non, c'est l'articulation entre la culture, ce que sont les peuples, le politique et l'économie qui fait la société. Et donc, c'est pas parce qu'on consomme partout, on va dans des McDo partout, qu'on consomme les mêmes choses, que les peuples deviennent similaires. Au contraire, les peuples reviennent au caractère primitif de leur archaïque même, de leur imaginaire, et pour éviter le chaos, il faut vite que les peuples redeviennent à nouveau maître de leur destin, sinon le pire est à craindre.
On n'est pas condamné au blocage, Stéphane Rodès ?
Non, on n'est pas condamné au blocage, mais pour ça, il faut beaucoup de lucidité, de courage, et que les politiques arrêtent de penser à l'élection d'après pour se hisser à la hauteur du moment historique dramatique. Et là, il n'y a pas beaucoup de gouvernants qui arrivent, en tout cas ceux qui existent dans le monde tragique tel qu'il est, ce sont les gouvernants qui sont indexés sur leur peuple. Pour le meilleur et pour le pire, il vaudrait mieux que ça soit autour de valeurs universelles, mais malheureusement, on le voit, ceux qui pèsent sur la scène internationale sont les dirigeants qui sont indexés sur leur peuple. De ce point de vue-là, l'Europe disparaît des écrans et la France est terriblement affaiblie. On le voit sur la guerre en Ukraine.
Exactement, ouais.
Sur la guerre en Ukraine, les choses se décident à Washington, à Moscou et à Pékin. Oui. Et l'Europe, elle joue les utilités et avec une commission européenne très vassalisée aux Américains. On voit bien que le président Macron, avec un peu les Allemands, essaye de faire entendre une musique un peu différente, mais ils ont
ça reste marginal. Ça
voilà,
reste marginal,
voilà.
Effectivement. Merci Stéphane Rodès.
Merci à vous.
Merci d'être venu dans les studios d'Europe 1 ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier livre, des entretiens avec Arnaud de Benedetti, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est publié aux éditions du CERF. Merci, bonne journée et bonne fin d'année.
Merci et bonne journée.